Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivant.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité d'aujourd'hui dans Antiquissimo sur Radio Alliance Plus, c'est Roland Portiche, que je salue tout de suite. Bonjour Roland.
Bonjour Martine.
Alors Roland, nous le connaissons, nous l'avions déjà à la fois lu et entendu sur les ondes d'Antiquissimo. C'est un auteur fécond parce qu'on voit qu'il multiplie les productions à tous égards. C'est dans une deuxième vie, je dirais, qu'il a entamé celle de romancier, d'essayiste, après avoir été, mais il l'est toujours, réalisateur, co-scénariste, coproducteur à la télévision.
Alors, et oui.
Et oui. Donc, il y a une habitude particulière de l'image et des mots, et ça se retrouve dans tout ce que vous écrivez. Alors, je dis que vous êtes un auteur fécond. Moi, je vous ai rencontré, mais vous aviez déjà écrit auparavant, en 2025, pour un roman que nous avions beaucoup aimé, dont Bérénice était l'héroïne. Et on vous retrouve donc avec un premier volume de ce que vous annoncez déjà être une trilogie autour de personnages inspirés par la machine à remonter le temps d'Ernetti. Alors ça, vous en aviez déjà parlé d'Ernetti.
Oui, en fait, c'est une deuxième trilogie. Dans un premier temps, en 2020, j'avais écrit une première trilogie qui était introductive à cette histoire de machine d'Ernetti. Le premier roman s'appelait « La machine Ernetti », tout bêtement. Et puis le second s'appelait « Ernetti, l'énigme de Jérusalem ». Et le troisième, « Ernetti et le voyage interdit ». Et ces trois romans ont très bien marché.
Ah oui.
Et parce qu'effectivement, ils touchaient à quelque chose de très intéressant et de très fascinant, c'est-à-dire la possibilité de remonter dans le temps. Il faut dire que le père Ernetti a vraiment existé.
Voilà, c'est exactement, vous devancez ma question. Lui n'est pas un personnage de roman, hein ?
Non, ce n'est pas un personnage de fiction, il a parfaitement existé. On possède des photos du père Ernetti, il est mort en 1994. Il avait ses entrées au Vatican, hein. On a plusieurs photos de lui avec le pape Paul VI, qui était un grand mystique, hein, et qui a été fasciné par ce personnage, qui était une sorte de touche-à-tout, physicien. En plus, dans les années 50-60, il s'occupait de physique quantique. Alors, c'est encore mystérieux aujourd'hui,
oui.
Et la physique quantique. Alors, imaginez, dans les années 50-60, c'était très mystérieux. C'était un personnage très... très intelligent. Alors, il disait, en effet, avoir inventé une machine à voir dans le passé. Attention,
elle s'appelle un chronoviseur, hein, je crois.
Ben oui, il a récupéré ce mot dans un roman de Isaac Asimov. C'était aussi un amateur de science-fiction. Donc c'est vrai que ça, le chronoviseur, ça vient de. C'est une idée de Asimov. Asimov avait imaginé dans une nouvelle que on pouvait avoir la possibilité de voir dans le passé. Et lui s'est dit, ben, je vais construire une machine qui pourrait faire ça, à partir de théories plus ou moins fumeuses. Lui affirmait, et il avait un pouvoir de conviction quand même très important, qu'il avait construit cette machine. Le pape lui aurait même demandé, parce qu'on était dans les années 55-60, où le Vatican se sentait un petit peu entouré par les marxistes qui gagnaient du terrain, le pape avait besoin de redonner un deuxième souffle à la chrétienté, et le pape, Paul VI mystique, lui aurait demandé de lui rapporter des photos, des photographies du Christ et de ses apôtres. Et la légende, une légende urbaine, dit que Ernetti aurait fait le voyage avec sa machine et que ce qu'il a découvert était tout à fait surprenant, à tel point que le pape aurait ordonné de démonter la machine, qui se trouverait quelque part dans les caves du Vatican.
Alors,
tous,
oui. Hernetti, donc,
oui.
Personnage fascinant, avec plein de cordes à son arc, musicologue, donc homme d'église, bien sûr,
oui.
Sorte d'exorciste italien
oui,
aussi.
À Venise, il était exorciste à Venise, en plus.
Oui.
Et bon, alors, honnêtement, je crois que la réalité vraie, c'est qu'il était sans doute un peu mythomane, un peu beaucoup même mythomane, mais peu importe, c'est-à-dire que moi, je me suis dit, je vais utiliser le privilège du romancier, qui peut se dire, et si c'était vrai? Parce que quand même, Martine, ce serait formidable pour un prêtre, enfin pour un romancier, de raconter les mésaventures d'un prêtre qui se confronterait aux réalités crues de l'histoire.
Eh oui.
Hein, qui confronterait ses croyances aux vérités de l'histoire. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le premier tome. Puisqu'il part, en effet, je raconte sa poursuite de Jésus. Hein, il se fait accompagner d'ailleurs par archéologue.
Voilà, on va en parler après des personnages. Et là, avant de rentrer dans le roman proprement dit, qui était un énorme roman, hein, parce que 359 pages,
oui.
Une écriture qui va vite, hein, avec une quantité de chapitres. On parlera tout à l'heure de la technique du roman. Mmh. Donc, un gros roman, mais c'est vrai, ancré à la fois dans l'histoire d'un vrai personnage, l'histoire du XXe siècle. Et croisant la nôtre, celle du XXIe siècle, où cette fois-ci, il y a un pape aussi dans votre histoire, et c'est Léon XIV en personne. Excusez du peu.
Tout au long de son histoire, le père Hernetti, dans la première trilogie, avait croisé plusieurs papes, à commencer par Pie XII, mais aussi Jean-Paul II pour le deuxième tome, et puis... Jean-Paul II, ça s'est arrêté à Jean-Paul II. Et là, on est en 2026. Et comme mon objectif était de moderniser la trilogie, parce que pourquoi faire une trilogie de plus? Parce que la première se passait dans les années 50-60, la seconde se passe aujourd'hui avec les technologies d'aujourd'hui. Et donc, et puis des enjeux dont je vous parlerai.
Et oui.
Voilà, qui sont des enjeux d'aujourd'hui.
Des enjeux
donc,
majeurs, bon, parce qu'effectivement, comme on peut supposer, et là encore une fois, vous avez bien dit qu'il y avait beaucoup d'ombre autour de cet homme de lumière, ce fameux Hernetti, mais on dit qu'il aurait été enfermé dans les sous-sols du Vatican, sous l'ordre du pape, tellement c'était effrayant ce qu'il aurait permis de découvrir. Donc tout ça est à la fois l'œuvre d'un scientifique et pas du tout scientifique, et entouré d'un mystère très très intéressant pour un romancier, effectivement. Donc vous êtes là dans votre élément parfaitement, parce que vous adorez ça. Je n'ai pas rappelé que vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études cinématographiques, docteur en philosophie, licencié en lettres. Donc vous aussi, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, mais vous n'avez pas inventé de chronoviseur, je ne crois pas. Hein.
Non, mais en revanche, j'ai côtoyé très près les deux frères Bogdanov, puisque figurez-vous que je suis à l'origine de la création de cette émission qui est devenue culte aujourd'hui,
bien sûr.
Qui s'appelle Temps X, avec Igor et Grishka Bogdanov, que j'ai rencontré, avec qui j'ai fait mes premières réalisations, et qui était le personnage encore plus extraordinaire que le père Hernetti. Et donc, je suis très passionné par la science-fiction. Et ce mélange que j'ai cru pouvoir faire entre la science-fiction et la théologie et l'histoire, c'est un mélange qui m'a paru intéressant, et puis qui apparemment a touché le public, parce qu'on est tous passionnés par non seulement la possibilité d'aller voir dans le passé, mais avec cette seconde trilogie, on en parlera si vous voulez, la possibilité aussi de le changer, de le transformer, parce que le présent est très fragile, et il suffit parfois de changer quelques petits détails dans le passé pour que le présent soit entièrement bouleversé. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure, si vous voulez.
Oui, ça, c'est un genre majeur aujourd'hui, effectivement. Et moi, toute admirative de ces plongées dans le futur, de ce mélange avec le présent, je voudrais aussi rappeler, parce que ça, c'est le professeur de lettres classiques qui est sensible à cela, qu'on dit que Hernetti avait raconté que grâce à son chronoviseur, il aurait pu entendre, c'est magnifique, la représentation de Tragédie perdue d'Ennius, et qu'il l'aurait enregistré. Donc ça, c'est fabuleux. Hein.
Et c'est fabuleux.
On rêverait de tomber là-dessus, mais ça n'est pas le cas.
Eh non. Mais Mais c'est vrai que c'est fascinant. C'est fascinant. Et je ne me rappelle plus quelle était la tragédie, une tragédie très ancienne qu'il avait.
Tieste, c'est la tragédie
Voilà,
Tieste. Voilà.
exactement. Une très belle tragédie d'ailleurs, et qu'il aurait entièrement enregistrée. Bon, voilà. Enfin, ça, c'est toujours fascinant parce que le passé nous fascine, et puis parce que l'impossibilité de revenir en arrière est quelque chose de très irritant. Et quand on a la. Vous savez, le fantasme du voyage dans le temps, c'est un des fantasmes les plus. Les plus ancrés en nous, parce que on essaye de combattre cette tragédie, qui est le fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Si on pouvait revenir en arrière, ce serait tellement merveilleux,
Et
et c'est ce que vont essayer.
peut-être que ça chamboulerait vraiment beaucoup trop de choses que de modifier l'effet papillon, le moindre petit détail. C'est ce qu'on va aborder dans la deuxième partie de l'émission, mais il est temps de faire une petite pause musicale avec un clin d'œil que vous reconnaîtrez, qu'il a à voir avec le cinéma. Retour vers le futur, et nous nous retrouvons tout de suite après, Roland. Alors, c'est la deuxième partie d'Antiquissimo sur Radio Alliance Plus et nous retrouvons Roland Portige pour son roman du jour parce qu'on a égrené tout ce qui s'était dit auparavant. Et ce roman s'appelle Les enfants d'Ernetti. On a longuement expliqué qui était Ernetti, point de départ de cette histoire. Et c'est publié chez Fayard depuis la fin du mois d'avril. On le trouve dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Alors, ces enfants d'Ernetti, peut-être sont-ils, alors c'est peut-être nous, c'est peut-être vous, c'est peut-être nous tous, mais c'est aussi des personnages que vous avez créés, dont on va parler, principalement le père Christopher Marx, qui est un brillant physicien et théologien, et une collaboratrice qu'on va lui imposer, c'est le pape, hein, attention, ça se passe au Vatican, et le père Christopher Marx, à qui on confie ses missions, n'a absolument pas son mot à dire, il doit obéir au pape. Sa collaboratrice, alors est-ce que j'oublierai son prénom? Nastia,
Nastia.
j'allais dire Nastasia, mais non, c'est Nastia. Nastia
Oui.
Bodarenko, son nom est parlant aussi, spécialiste de physique quantique, et qui a part à la science, bien sûr, mais peut-être aussi avec des univers, comment dire, d'espionnage. Elle est d'origine russe.
Ukrainienne, elle est
Ah là, oui,
ukrainienne,
voilà. Et elle a maille
mais
à
elle parvient
partie,
aussi.
justement, avec les Russes, comme on peut
Voilà.
s'en douter. Alors, on va rentrer dans ce vif du sujet et d'abord évoquer la couverture. Donc, vous avez choisi un tableau qui représente, c'est le nom du tableau de Vitali, Le Sauveur du Monde, un tableau de 1519 où on voit Jésus, parce que Jésus est aussi un personnage de votre roman, un Jésus entouré d'énigmes et des énigmes que vous aimez bien malmener. Alors, on part du principe, et de ça c'est une vérité historique, d'une énigme majeure, c'est les 12 ans de l'enfance à 30 ans de ce Jésus, personnage historique, dont on ne sait pas ce qu'il a fait pendant toute cette période. Et plusieurs hypothèses aujourd'hui en cours, et vous en allez en retenir une. Peut-on parler déjà de ce point de départ?
Ah ben si vous voulez, en vérité, il y a trois affaires que le père Christopher Marx va essayer de résoudre sur l'ordre du Vatican et du pape Léon XIV, hein, nommément présenté dans le roman. Il y a trois affaires, une affaire qui tient
Je vous interromps
au
deux
cours.
secondes, vous lui avez envoyé le roman au pape ou pas? Il
Non,
faudrait.
je ne sais pas si les éditions Fayard l'ont envoyé. Ce que je sais, c'est qu'avec la précédente trilogie, j'avais eu vraiment des félicitations d'un des proches du pape, pas de ce pape, mais du pape précédent, qui était l'évêque de Gap. Je ne me rappelle plus, qui avait bien connu les personnages qui étaient présents dans mon premier roman, à savoir Paul VI, et qui avait trouvé que c'était très proche de la vérité. Mais sauf qu'il m'avait dit, Paul VI, ce n'est pas un expert en karaté, comme vous le dites dans votre roman. Non, je ne sais pas si on l'a envoyé au pape. Ce serait
Bon,
une bonne idée, d'ailleurs.
bah oui,
Parce qu'en
j'imagine.
vérité, oui, sauf que, évidemment, dans la première affaire que va avoir à résoudre le père Marx, dont on parlera peut-être après, c'est-à-dire que il se trouve que avec le nouveau chronoviseur, parce que il y avait l'ancien chronoviseur qui nous permettait uniquement de voir le passé, avec le nouveau chronoviseur, on peut interagir avec les personnages de l'histoire, parce que les personnages, les héros peuvent envoyer un avatar virtuel dans le passé, un avatar virtuel qui est capable d'interagir avec
Et
les
oui,
personnages de l'histoire.
parce que là,
Et...
justement, ça c'est un point majeur. Vous avez bien rappelé que le véritable Hernetti, lui, il n'allait pas dans le temps.
Et non, il
Tandis que
n'allait
là,
pas dans
c'est...
le temps, il
Oui.
pouvait que le voir,
Oui.
que regarder. Là, on peut interagir, on peut envoyer un avatar virtuel, un peu comme dans un jeu vidéo, un peu comme dans le film de James Cameron. Hein,
Oui.
on envoie un avatar virtuel dans le temps, et cet avatar virtuel peut donc interagir. Et donc, évidemment, qui dit interagir, dit aussi la possibilité de changer
Eh
l'histoire.
oui.
Et comme dans tout roman, il y a à la fois un héros, et enfin nos personnages principaux, et puis il y a un ennemi qui est un milliardaire de la tech, hein, qui s'appelle Steve Le Gouvello de la Porte, et qui, en fait, pour le dire très simplement, cherche à saboter l'histoire et à travers la possibilité de saboter l'histoire, si vous voulez, à s'attaquer au fondement même de la démocratie, en changeant quelques points clés de
Oui,
l'histoire.
et en
Et
attaquant le monde judéo-chrétien, en fait.
voilà, et en commençant par attaquer le monde judéo-chrétien, parce qu'après, dans les autres tomes, il va essayer de s'attaquer à d'autres aspects. Et donc, ce qu'il ne peut pas supporter, comme, vous savez, ces néo-libertariens qui existent
Oui.
autour de Elon Musk, etc., sont des ennemis de la démocratie. Hein.
Oui.
Certains sont de purs hommes d'affaires, d'autres sont des idéologues, et ces idéologues aimeraient bien que le monde ne ressemble pas tout à fait à celui qu'il est. Et si on pouvait changer quelques petits points précis de l'histoire pour en finir avec l'égalitarisme chrétien. Eh ben, ce serait formidable pour eux parce que c'est un frein au développement du capitalisme tel qu'ils l'entendent. Voilà. Et donc, à chaque fois, mes héros auront à se battre avec ce personnage. Et une des affaires qu'ils auront à résoudre, c'est... Est-ce que Jésus, on pourrait pas, enfin, est-ce qu'on pourrait pas imaginer une situation où Jésus aurait été gracié? On en parlera plus tard, si vous
Oui.
voulez.
Alors là,
Bon.
déjà, les hypothèses concernant cette période fort longue où
Oui.
Jésus disparaît et où on ne sait pas ce qu'il fait.
Alors, c'est en effet très mystérieux. Vous pouvez prendre n'importe quel évangile, on ne dit rien de Jésus entre l'âge de 12-13 ans et puis l'âge de 30 ans. À 30 ans, il arrive sur les bords du lac de Tibériade avec un discours parfaitement constitué et puis il commence à évangéliser. Mais où a-t-il forgé son discours? Comment s'est-il éduqué? Les évangiles n'en disent absolument rien. Alors, il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses et j'en présente quelques-unes
Voilà, il y en a
dans...
trois majeures, hein, dans les
Oui.
hypothèses.
Alors, il y en a une qui m'a été donnée, je ne sais pas si j'en ai parlé, par Marc-Alain Wachnin, je ne sais pas si vous le connaissez,
Non, pas du tout.
qui est un théologien juif, et qui pense que Jésus s'est éduqué auprès des thérapeutes d'Alexandrie, qui étaient des gens qui... C'était une secte égyptienne où on s'intéressait beaucoup aux relations entre le corps et l'esprit, enfin la psychosomatique avant l'heure, et que ça expliquerait en partie certains des miracles de Jésus. Mais on a aussi imaginé que, évidemment, Jésus aurait pu séjourner chez les Esséniens, cette secte très mystérieuse qui existait sur les bords de la mer
Oui.
Morte et qui a produit les fameux manuscrit de la Mer Morte, et qui avait des rituels qui ressemblent beaucoup aux futurs rituels chrétiens. D'autres ont dit que...
Oui, d'ailleurs, ces Esséniens, pardon, c'est dur à dire, Jésus parle, pratique leur langue,
oui.
Et on note aussi que dans la judaïté, c'était à l'époque un apprentissage spirituel tout à fait normal que de séjourner auprès d'eux.
Oui, oui, et surtout que les Esséniens avaient en plus une vision apocalyptique du monde. Ils étaient persuadés que l'Apocalypse était pour dans 3 semaines. Hein. Enfin, ils pensaient qu'elle était toute proche, et donc ils se purifiaient en attendant le jugement dernier. Et Jésus aurait pu effectivement vivre. On sait que Jean-Baptiste
oui.
a quelques éléments dans sa personnalité, dans son comportement, qui peuvent faire penser aux Esséniens. Et puis, il enseignait tout près de Qumran. Mm. Moi, je suis allé, j'ai fait plusieurs émissions sur l'archéologie biblique, et je suis allé à l'endroit qui est supposé être l'endroit supposé par les archéologues où enseignait Baptiste, c'est en effet à 3 km de Qumran.
Oui.
Donc, bon, voilà, c'est pas impossible. Il y a aussi des hypothèses très drôles que Jésus aurait passé plusieurs années en Angleterre.
Oui.
Et,
et
oui.
Alors, et vous, alors, on va pas, évidemment, ici, on ne raconte pas tout, ce n'est pas du tout le but
non.
de l'émission. Mais vous êtes plutôt parti pour le faire former en Inde.
Ben oui, figurez-vous qu'il y a un livre qui est sorti en 1894 d'un russe qui s'appelait Notovitch,
oui.
Et qui a un livre qui existe vraiment, vous pouvez même le trouver sur Internet, qui raconte... Notovitch était un journaliste russe qui enquêtait dans les lamasseries du Tibet et qui a trouvé des traces d'un personnage qui ressemble énormément, effectivement, à Jésus, qui serait retourné en Palestine... et aurait été crucifié par Ponce Pilate. Et ce personnage s'appelait Issa. Et il a trouvé des et donc il a raconté cette histoire dans un livre qui explique que effectivement ces années mystérieuses, Jésus les aurait passées en Inde, ce qui est pas absurde. C'est
oui,
pas
ouais.
Absurde.
C'est un petit peu aujourd'hui controversé ça, mais ce journaliste,
oui.
Effectivement, Nicolas Notovitch, alors je donne ces dates pour ceux qui voudraient se précipiter, enquêter sur lui, 1858-1941, ce sont ces dates. Et donc fascinant quand même, romanesque aussi, une formation en Inde. Et c'est la base d'une des histoires que vous racontez ici dans votre roman. Donc, on a bien compris depuis le début de l'émission que vous vous régalez à croiser tout ce que vous aimez, tous les univers que vous aimez, et à raconter, car vous êtes un très grand conteur. Et on retrouve, je vous l'avais déjà dit dans une émission précédente, une écriture cinématographique extrêmement imagée, rapide, avec des chapitres courts. Il y a 72 chapitres, hein, courts et alertes, et une architecture vraiment cinématographique. On va peut-être y revenir après, mais j'aimerais vous demander, puisque dès que le roman se termine, vous annoncez déjà la suite. Sans tout dévoiler, cette trilogie, elle va fonctionner comment ?
Ben, c'est-à-dire que dans le deuxième tome, on annonce déjà la couleur, on va s'occuper des Hébreux. Parce que, évidemment, à chaque fois, mes héros auront à résoudre des problèmes qui sont causés par ce saboteur qui s'appelle donc Steve Le Gouvello de la Porte et qui va essayer de transformer l'histoire pour la changer à sa guise et pour changer le présent à sa guise. Et évidemment, à chaque fois, le Vatican envoie mes deux héros, le père Marx et sa collaboratrice, dans le temps pour essayer de remettre les choses sur ses rails. Et dans la deuxième... c'est exactement ce qui arrive dans la première trilogie, hein, puisque on se pose la question de savoir si Jésus allait être gracié ou non. Et si Jésus est gracié, il n'y a plus de christianisme.
Hein, et
vous
oui,
vous
voilà, exactement, exactement.
Hein, Jésus gracié, il n'y a plus de crucifixion, il n'y a plus de résurrection, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, et donc il n'y a plus de christianisme. Et donc le pape est terrifié par cette histoire et demande au père Marx au prêtre, qui est le père Max, de partir dans le temps pour résoudre ce problème, c'est-à-dire quoi ? Pour faire condamner Jésus.
Et oui, c'est ça le paradoxe. C'est que quelque part aussi, on a coutume de dire que Judas, qui passe pour le méchant de l'histoire, il est indispensable au christianisme. Autrement, effectivement.
Mais oui, quand Judas, vous verrez, il sera présent dans le troisième tome. Et donc, voilà, vous vous rendez compte, c'est la terrible mission que peut avoir un prêtre, qui évidemment, pour qui Jésus est quelque chose de très important dans sa vie, et qui va, bon, alors il va trouver un moyen de résoudre le problème. Comme à chaque fois, il va remettre l'histoire sur ses rails, mais ça ne sera pas facile. Et voilà. Alors, dans le deuxième tome, je délaisserai un peu Jésus et je vais m'occuper de quelque chose de très, très intéressant, qui, à chaque fois, part de réalité archéologique, puisque j'ai fait plusieurs émissions sur l'archéologie biblique. Et j'ai rencontré, avec François de Closet, on était tous les deux, une histoire qui nous a été racontée par le numéro 2 de l'école biblique de Jérusalem, Jean-Michel de Tarragon, qui nous avait raconté une découverte étonnante faite dans le Négev, où on voyait la figure de Yahvé accompagnée de son épouse Asherah.
Bon, bah alors on va rester là-dessus, même si voilà. Nous n'avons pas tout dit. Je demande aux auditeurs de se précipiter sur le livre. On n'a pas évoqué les trois parties parce que c'est une architecture vraiment bien conçue, mais on a compris l'esprit de ce livre et son intérêt. Et je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour la suite, Roland Portiche.
Merci beaucoup, Martine.
Au revoir. Beaucoup.